be someone, oh, that he understands. Oh, I know. Oh, the bittersweet escape.
Bonjour à tous. Marie-Lou et moi, on est ici aujourd'hui pour notre premier épisode de Discuter. On est très excités de pouvoir filmer ce premier épisode. C'est tellement un gros saut qu'on fait, Marie-Lou. Dis-moi, Marie-Lou, la question classique d'un thérapeute, comment tu te sens d'être ici aujourd'hui?
Oh, je me sens fébrile, excitée, joyeuse, nerveuse. J'ai un peu peur aussi, c'est une première, hein, une exposition aux yeux de tout le monde. Mais je suis tellement contente, j'ai beaucoup de gratitude de vivre ça avec toi aujourd'hui. Donc voilà, puis toi Sarah, comment t'es sentie?
Ah ben ça m'a parlé quand t'as dit beaucoup de gratitude, parce que j'ai tellement de gratitude, on se l'est dit au travers des dernières semaines, là, je pense au quotidien. Tu sais, juste notre histoire, Marie-Lou, est tellement spéciale, tu sais, une amitié de 27 ans, puis une belle amitié, tu sais, on n'a pas resté en contact là, tout le long de ces années-là, mais moi, je me souviens, au début, là, il y a 27 ans, quand on s'est rencontrés, tu m'avais hébergé chez vous parce que j'étais en chambre seule, puis je me souviens que tu m'avais dit que c'était pour t'aider financièrement. Oh, ça allait coûter moins cher, le loyer, tout ça, mais t'avais quand même un 3,5, on avait une chambre dans l'appartement, puis moi, je me souviens d'avoir été touchée de vouloir partager ton espace comme ça avec moi, puis ça avait été... on avait habité ensemble pendant 6 mois environ, là. Fait qu'on s'est connus dans notre intimité très... très collée.
Vraiment, oui.
mais là, dans tout ça, j'ai pas répondu à ta question, Marie-Lou. Comment je me sens d'être ici aujourd'hui? Ben, je suis fébrile. Un peu comme toi, il y a des peurs. Il y a des peurs, je pense que c'est normal. Puis il y a une partie que je suis dans l'accueil de tout ce que ça nous fait vivre. Ça me fait vivre... Je pense qu'on s'en est parlé beaucoup là, dans les dernières semaines. Là. Ça nous fait vivre des peurs, puis l'appréhension, puis une fébrilité. Mais c'est ça, je suis dans l'accueil de ça. Puis je suis surtout heureuse de pouvoir être là. Puis ça fait tellement des années, j'ai l'impression que je suis en train d'accoucher d'un bébé que j'ai été en gestation pendant 4-5 ans. Là.
C'est l'accouchement aujourd'hui!
C'est un grand jour. Fête des mères, Marie-Lou, en plus, qu'on sort notre épisode.
Oui, vraiment, bonne fête des mères, hein, à toi, Sarah, et à toutes les femmes qui nous écoutent aujourd'hui. Les femmes aussi qui ont un rôle de maman sans porter nécessairement le titre. Que ça peut être une belle-mère, ça peut être une tante, ça peut être une éducatrice. Je pense qu'il y a beaucoup de façons de prendre soin des autres.
Oui, effectivement. Tu sais, c'est pas parce que t'as pas mis au monde un enfant que t'as pas ce rôle de mère-là dans la vie d'une personne. Fait que c'est bonne fête des mères à vraiment tout le monde qui a ce rôle maternant-là dans sa vie. C'est une occasion, en fait, de souligner, parce que c'est tellement un rôle important d'être mère et c'est significatif. Les mères, moi, j'entends tellement de mères, on veut tellement le mieux pour nos enfants et c'est une journée pour les souligner.
Tout à fait, tout à fait.
Si tu me parlais un peu de toi, Marie-Lou, tu sais, si on s'est introduit pour notre premier épisode, on a, ben, juste avant que tu t'introduis, Marie-Lou, tu sais, l'épisode qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui dans notre épisode, c'est la première. Fait qu'on va présenter, discuter, qu'est-ce que vous, notre public, va pouvoir retirer de discuter. Puis vous allez voir un peu la vibe de moi puis Marie-Lou, notre complicité au travers de cet épisode-là, puis ça va continuer à se construire là, au travers les mois. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver dans discuter? On va l'aborder, et aussi nos piliers. On a 5 piliers, l'amour, l'humilité, l'interdépendance, l'intégrité et j'ai dit l'amour, hein?
Oui.
L'authenticité. Oui. On a 5 piliers qui sont importants, qui sont centrales à discuter. Donc, on va les aborder au niveau personnel. Qu'est-ce qui fait qu'ils sont importants pour nous? Et on va regarder la structure de nos épisodes, de quelle façon que nos épisodes vont être montés, à quoi vous allez pouvoir vous attendre.
Ça va être super fun. Donc, tu veux que je parle un peu de moi?
Ben oui.
Oui.
Parle-nous-toi, Marie-Lou.
Oui, bien, en fait, je suis une femme de 42 ans, 43 le jour où les gens vont nous écouter. Je suis une maman de 3 enfants, une adulte, 2 adolescents. C'est un rôle qui est super, super important pour moi, qui me tient à cœur. Je suis une maman super engagée, je travaille fort pour devenir la maman dont ma façon d'éduquer mes enfants, c'est la mère que j'aurais voulu avoir. C'est ce que j'offre à mes enfants. C'est vraiment très important pour moi. Je suis aussi une amie, une collègue. Je suis une préposée aux bénéficiaires depuis 22 ans. C'est un métier que j'aime vraiment. Les personnes âgées au quotidien, c'est de l'amour, c'est de la résilience. Je suis vraiment chanceuse de les côtoyer. Puis aussi, ce qui me décrirait, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que c'était pas quelque chose qui me définissait, Sarah. Hein? Tu sais que les étiquettes, c'est pas la chose la plus importante, mais moi, je me suis sentie différente toute ma vie jusqu'à l'été dernier où on m'a dit que j'étais autiste. C'est quelque chose qui fait partie aujourd'hui de mon identité pour moi parce qu'il me manquait un morceau dans mon casse-tête que je n'arrivais pas à comprendre, qui m'a amené beaucoup de compréhension dans mon besoin de tout analyser, tout comprendre. Puis c'est très assumé pour moi. C'est quelque chose, même, je dirais que je suis fière de ma différence. J'ai jamais voulu être comme tout le monde. Pour moi, c'était pas quelque chose de positif ou d'unique. Donc voilà, c'est pas mal ça. Puis toi, Sarah, si tu me parlais de toi, qu'est-ce que tu me dirais?
En fait, j'ai goût de rebondir un peu sur ce que tu dis, Marie-Lou, parce que je trouve ça beau. T'sais, quand tu disais que pour toi, tu avais besoin d'être unique, tu avais besoin d'être différente. Et en même temps, t'sais, souvent, on a besoin d'être accepté, d'être aimé. Fait qu'il y avait sûrement ce besoin-là, mais en même temps, il y avait ce besoin-là d'être différente, d'être unique.
Oui.
Et il y avait quelque chose à l'intérieur là, qui te disait là, qu'il y avait quelque chose que tu vivais les choses peut-être différemment des autres.
Oui.
Et ton diagnostic d'autisme est venu t'amener toute une compréhension, en fait, à ton univers interne. Puis quand tu dis, t'sais, on t'a dit, mais t'es allé aussi chercher, toi, ces informations-là, tu voulais avoir une réponse à tes questions.
Oui, vraiment, c'était moi, là. C'était moi, j'avais commencé à faire des démarches, à lire sur le sujet. J'ai dit, mais c'est moi, ça, c'est moi qui est allé voir un spécialiste. J'ai dit, écoute, je pense que c'est moi, ça. Est-ce qu'on peut faire des tests? Puis ça a enlevé effectivement le voile devant beaucoup de choses qui ont, ah, oh, la lumière s'est allumée. C'est ça qui se passe. C'est ça ma différence.
Puis je trouve ça intéressant, Marie-Lou, parce qu'on peut voir des fois des étiquettes qu'on obtient, c'est comme pour toi, la femme autiste. Mais pour toi, ça t'a pas mis dans une boîte, là, ça t'a permis de comprendre, en fait, et de pouvoir même vraiment élargir. Une fois que tu comprends, tu peux mettre des actions des fois sur certaines choses que tu savais pas trop avant. Fait qu'il y a quelque chose de tellement bénéfique là, que tu as reçu au travers cette étiquette-là. On va le dire, c'est une étiquette.
Oui, vraiment, vraiment. Puis toi, Sarah, parle-moi de toi maintenant.
Si je te parle de moi, Marie-Lou, puis pas juste à toi, mais à tout le monde qui nous écoute. En
Bien
fond, moi,
sûr.
j'ai ben, le titre de thérapeute en relation d'aide. Fait que je suis thérapeute spécialisée en relation humaine, en relation d'aide. Je fais ce métier-là, cette profession-là depuis 11 ans. Et je suis aussi coach de couple. Donc, j'allais chercher mon coaching de couple là, il y a environ 2 ans pour venir élargir, si on veut, ma pratique. Et j'ai tout le temps eu une fascination pour les relations humaines, les dynamiques de couple. C'est incroyable là, ce que tu peux vivre en couple. Puis, tu sais, je me spécialise dans la notion d'attachement. Fait que dans le couple, là, nos enjeux d'attachement, ils ressortent beaucoup. Donc, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup d'accompagner les couples. Et je suis aussi formatrice au CFPRH. Donc, ça fait environ 6 ans que je suis formatrice. Donc, j'enseigne, en fait, des personnes qui veulent pratiquer le métier de thérapeute. Et c'est un peu là qu'on a eu des retrouvailles ensemble, Marie-Lou. Tu sais, on s'est connus il y a 27 ans. Il y a
Oui.
4 ans, là, quand tu as retombé dans mon Messenger, c'est quand, hey, Sarah, je surfais le site, puis je t'ai vue comme formatrice, tu n'en revenais pas. Et là,
Ben
tu t'es
oui, c'est
inscrite.
tellement nouveau que j'ai même pas pensé le nommer dans qui je suis. Et
Ah, c'est
effectivement,
vrai.
comme toi, je suis thérapeute en relation
Oui.
d'aide, mais toi, ça fait longtemps, moi, c'est tout frais, là.
Oui. Ben, c'est vrai. T'sais, ça fait 1 an à peu près là, que tu as gradué, Marie-Lou.
Oui.
Donc, officiellement, thérapeute en relation d'aide, ça fait 1 an, mais tu
Oui.
as. Elle t'a fait du développement personnel, c'est au travers de nos conversations dans les dernières semaines, là, parce qu'on a repris contact il y a environ 1 mois, je dirais. Et là,
Ouais.
ça a déboulé rapidement ce qu'on a reconnu chez soi, un et l'autre, il y a 27 ans. On l'a retrouvé parce que pendant ta période où tu étais à l'école, qui était environ 3-4 ans, tu sais, 3 ans et demi, on n'a pas entretenu une amitié. J'étais dans une position de formatrice.
Oui, tout à fait. C'est ça, c'était le moment nécessaire, mais un peu difficile parce que j'avais tellement hâte qu'on puisse reconnecter ensemble.
Puis je me souviens de
Oui.
t'avoir dit, tu étais au début de ta formation. J'ai dit, Marie-Lou, après ta formation, si tu veux me recontacter, puis on va pouvoir réouvrir la porte à notre amitié. Puis j'étais, en fait, dans l'attente, honnêtement. Puis quand tu as retenti dans ma boîte vocale, là, ça repartit. Il n'y avait plus
Ben,
de.
oui, puis quand je suis retontie, Sarah, je suis retontie parce que, en plus d'être dans ton métier professionnel, tu es une maman, toi aussi.
Oui.
C'est pour ça que je suis venue vers toi la première fois que je suis revenue. C'était pour avoir de ton écoute et de tes précieux conseils comme maman. Est-ce que tu veux nous parler de tes enfants un petit peu, de ton rôle de maman?
Oui, fait que je suis maman de deux enfants. Fait que j'ai une fille de 17 ans, j'ai un coco de 3 ans. Mais j'ai recommencé là, après un 14 ans de ma fille était a débuté l'adolescence en fait à 14 ans quand j'ai eu Edouard. Fait que c'est un je pense que c'est une des plus belles choses dans la vie d'être maman. C'est tellement riche, riche au niveau de toutes les expériences qu'on vit, riche dans ce que je contribue à deux humains. Deux tellement belles personnes. Ma fille, j'ai beaucoup d'admiration pour elle. Puis je regarde mon petit coco de 3 ans, c'est beau. C'est tellement beau, les enfants. Donc, c'est quelque chose qui me donne beaucoup de satisfaction. Oui. Oui. Je reçois beaucoup au travers d'être maman. Oui.
Ça fait travailler aussi sur soi. Hein? Moi, c'est une chose que je n'entendais pas souvent, puis qui me fait penser à un de nos piliers, justement, l'authenticité, quand j'osais nommer à quel point ça venait me chercher, là, mon rôle de mère, par moments que je ne trouvais pas ça aussi évident que ce que j'aurais pensé, que ce n'était pas toujours aussi inné, puis que ça fait sortir des parties de nous là, qu'on n'aurait pas pu croire qu'ils existaient. Hein?
Oh, c'est incroyable, c'est incroyable.
Ouais.
Effectivement, je fais juste penser, Marie-Lou, quand Florence est née, moi, j'étais une femme de la carrière, tu sais, je travaillais, j'avais 27 ans. Puis, tu sais, moi, je voyais tout le monde avoir des enfants, je me disais, bon, c'est facile, tu sais, tout le monde le fait. Mais quand ma fille est née, là, oh, j'ai eu un choc, là, intense. Je ne m'attendais pas à ça. Le feeling d'avoir un être dépendant de toi, que si tu n'es pas là, si tu ne le surviens pas, il meurt, là. Sa survie dépend de tes soins. Et je me sentais tellement inadéquate, fort. Et l'accouchement avait été très difficile aussi. J'étais en pleurs, je pense que j'ai passé 2 semaines, là, je pleurais non-stop. Puis à un moment donné, j'ai reçu un conseil. Puis, parce que tu reçois des paroles de tout bord, tout côté. C'est comme dans mon milieu où ce que j'étais, j'avais quand même beaucoup de conseils, là, du monde qui veut le bien faire, évidemment. Et puis il y a une personne qui m'avait donné un conseil, qui m'avait dit, Sarah, écoute tes instincts. Tu le sais à l'intérieur ce que ton enfant a besoin. Puis ça a été, ça, elle a tellement fait du sens, cette parole-là, que je l'ai pris. Puis chaque fois que j'avais un doute, là, je me disais, qu'est-ce qui vibre à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que mon enfant a besoin? Puis à partir de là, j'ai commencé à installer une certaine confiance. Puis ça a super bien été. T'sais. Ma fille, il y a 2 mois, me faisait des belles nuits. Puis ça a été vraiment le choc du début, là. Ça a été intense. Hein? Oui.
Tu reviens à la maison, mon Dieu, tu ne sais plus fonctionner. Je ne savais pas quoi faire. J'avais déposé le siège d'auto, j'avais regardé le père de mes enfants, puis je j'avais dit, on fait quoi?
C'est
On
quoi la
l'enlève de
suite?
son siège, on la met dans son lit, on la met dans le parc, on détache, j'arrivais comme plus à fonctionner. Là. Toute ma vie changeait, l'environnement changeait.
Complètement.
C'était
Complètement.
bouleversant, là, on va se le dire.
Et puis, il n'y a personne, en fait, qui te donne un mode d'emploi de comment élever un enfant. Le seul mode d'emploi que tu as, c'est celui que tu as vécu, en quelque sorte. C'est sûr que tu peux aller chercher des informations, puis de la lecture, puis tu sais, dans ton suivi de grossesse, tu as un bouquin d'épais à lire là, sur comment prendre soin, mais c'est quand même, moi, malgré cette brique-là, je me sentais pas outillée, là. Oui.
Non, c'est une brique quand même faite pour un modèle généralisé.
Oui.
Moi, j'ai deux enfants sur trois qui sont pas dans le modèle généralisé. C'était vraiment, j'avais mis ça de côté, là. Je devais me faire confiance. Puis jusqu'à aujourd'hui, hein, il y a des choses que je savais de mes enfants, que je ressentais, que même si je me sentais invalidée par les professionnels, je le sentais en dedans de moi, non, 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 il y a quelque chose, mon enfant a quelque chose. Et effectivement, tu sais, j'ai pu avoir la confirmation que l'instinct de parent, il est vraiment fort, puis il est bon.
Oui, puis c'est important de s'écouter, mais s'écouter tout en ayant un bon discernement. C'est comme ça prend le discernement interne là, qui est efficace, j'ai goût de dire, parce que tu peux avoir. Il y a tout le temps des nuances. Et ça, c'est un mot qu'on va amener au travers de notre podcast, les nuances. C'est tellement important d'avoir des nuances. Fait que de se faire confiance, mais en même temps, il y a des choses, un discernement là, que ça prend aussi, là. Oui.
Sarah, si je pense qu'on a bien complété la phase de parler de nous, est-ce que tu as envie qu'on aille adresser nos 5 piliers?
Certainement. Tu sais, quand on a. Ben, en fait, quand on a parlé de faire discuter, ça fait des années, Marie-Lou, que je pense à faire un podcast, faire des formations en ligne, des thérapies là, autodidactes. Parce que les thérapies, c'est un investissement. Ça coûte des sous. Puis c'est pas tout le monde qui peut se permettre la thérapie. Puis la thérapie, c'est tellement bénéfique que ça amène tout un bien-être au niveau de l'équilibre mental, de prendre conscience, en fait, de son monde. C'est tellement riche, là, ce que tu peux aller découvrir en thérapie de ta personne. Puis j'avais à cœur, ce désir-là, si on veut, de faire des formations autodidactes pour des processus thérapeutiques, avoir un podcast. Et quand on a repris notre amitié, ça, le timing, là, c'est tellement incroyable. Puis tu avais ce rêve-là aussi. Donc, ça coule.
Avant même d'avoir ce rêve-là, je salue mes collègues. C'est un running gag à la job parce que tu sais, je suis très, très expressive, théâtrale, je m'exprime beaucoup. Puis mes collègues me disaient, toi, va en théâtre, va en humour, fais un podcast, faut que tu fasses quelque chose. Puis toi, tu m'envoies ça comme, hey, ça serait vraiment cool. J'étais comme, ben oui, let's go, on le fait,
On le fait.
on se lance.
Ça a déboulé là, rapidement quand même. On s'est retrouvés à. Puis, tu sais, la raison pourquoi qu'on fait notre premier épisode le 10 mai, tu peux peut-être nous dire, Marie-Lou, la raison?
Ben, c'est parce que nous, on voulait tout faire très, très vite. On était excités. Puis là, ma date de fête approchait, la fête des mères aussi. Je t'ai lancé ça comme avec toute la confiance que ça allait se faire super facilement. T'sais. Puis là, finalement, on a voulu monter notre structure. Puis là, j'ai fait, ouais, Sarah, finalement, je pense que ça ne va pas être si simple que ça. Parce que nous, 3 semaines, là, puis on était lancé, le site web était fait, la page était faite, le YouTube était parti, je comprends même pas comment on a tout fait ça. Là, on s'est dit, mais on va faire un podcast un peu différent pour le début parce que on avait fait cet engagement-là. On avait envie de le faire. Mais on s'est rendu compte que c'était pas si
C'est pas si
évident.
facile. Il y a plusieurs choses qui rentrent en compte. Mais tu sais, oui, c'était. Tu sais, quand tu m'as dit, hey, c'est ma fête le 10, la fête des mères, on lance ça là. Je suis comme, go! Et là, je check le temps sur le calendrier. Je suis comme, OK, ouais, c'est dans une semaine.
Oui, puis on a deux vies assez.
Oui.
Faut synchroniser tout ça, là. C'est.
On est deux femmes quand même très, très occupées. Mais c'est le premier podcast, le premier épisode aujourd'hui, ça va être un peu moins structuré. Là, on va parler d'un peu de la structure, mais ça allait vite, Marie-Lou, mais il y a eu des années de réflexion avant pour mettre tout en place, là, le podcast, la structure. Ça allait vite, mais il y a eu. Les deux, on a réfléchi, on avait une idée en tête, ça coordonnait, tout était tellement bien timé. C'est comme l'univers nous a placés ensemble. Go, vous êtes prêtes, les filles, lancez-vous. Et on est là
Oui,
aujourd'hui.
puis pour parler de notre premier pilier, justement, Sarah, parce que je me rappelle que c'est une chose que tu m'as dit, que l'interdépendance était super importante pour toi. Tu avais eu
Oui.
d'autres occasions. Mais toi, tu voulais vraiment travailler avec quelqu'un.
Oui, c'était un de mes critères. J'avais déjà lancé au travers d'un groupe. J'avais fait un appel à des personnes qui sont intéressées à faire un podcast. J'avais lancé des perches un peu ici et là. J'avais aussi approché une personne qui partait un podcast. Si tu penses que tu aimerais ça avoir une partenaire, moi, je serais partante. J'avais vraiment un intérêt puis le goût, mais il n'y avait rien qui vibrait comme étant c'est là que ça se passe ou c'est la direction que tu dois prendre. Et je m'en allais où avec ça? Ah oh, oui,
Ben, en
l'interdépendance.
fait, tu sais, l'interdépendance, c'est quoi pour toi?
Oui. Fait que l'interdépendance, moi, c'était sûr que je ne partais pas en podcast tout seul. Je voulais être en équipe. Pour moi, en tant que thérapeute en relation d'aide, coach de couple, je travaille seule avec mes clientes dans mon bureau. Puis, tu sais, oui, j'ai ma superviseure. Oui, tu sais, j'ai été au centre où ce que j'enseigne. Tu sais, j'ai mes collègues. Je travaille avec d'autres personnes. Mais pour un projet de podcast, moi, c'était non négociable avoir une partenaire. Puis, je n'aurais pas rêvé. Marie-Lou, j'aurais pas pu te décrire une partenaire plus parfaite que ce qu'on retrouve
On
ensemble.
était faites pour être
Tellement
ensemble.
beau.
On n'aurait pas
Oui.
pu imaginer ça il y a 27 ans de ça. On voit mon
Jamais.
chat qui vient nous tenir compagnie. Il nous trouve super intéressant. On n'aurait pas imaginé ça.
Jamais.
C'est quoi? Qu'est-ce que ça t'apporte, toi, l'interdépendance?
L'interdépendance, en fait, c'est. Tu sais, moi, j'ai été. C'est une étiquette, en fait, que j'ai portée longtemps dans ma vie, que j'étais une femme indépendante, même qu'on m'a souvent dit, puis encore qu'on me dit que je peux être difficile d'approche. Tu sais, j'ai quand même j'ai eu pendant longtemps un personnage où, tu sais, j'avais même, je pourrais dire, une fierté à porter cette étiquette-là, que je suis indépendante, que je fais les choses tout seul. Moi, je suis débrouillable. Là. Tu sais, dans ma tête, là, il n'y a rien qui est impossible à atteindre. C'est. Fait que je suis une fonceuse, je gère. Demander de l'aide, c'était très difficile. Ça m'amenait dans une impression, en fait, d'être vulnérable. Donc, de recevoir de l'aide ou de demander de l'aide, c'était pour moi menaçant. On va dire comme ça. J'étais pas. J'allais pas demander de l'aide à personne. C'était quelque chose qui était très ancré chez moi. Et quand tu sais, l'être humain, on est des êtres humains relationnels. Une phrase que j'aime beaucoup, c'est « on est blessé en relation et on guérit en relation ». Fait quand
Tellement.
on rentre en relation, quand on se trouve à l'autre, on peut tellement être nourri, grandir, apprendre sur soi, l'école de la vie. Une autre phrase que je dis souvent, c'est donc je mise beaucoup sur l'interdépendance, sur ce que tu peux offrir à l'autre, ce que tu peux donner et ce que tu peux recevoir aussi de l'autre. Et l'être humain, on est tellement plus fort lorsque on est dans l'interdépendance.
Fait que toi, si je trouve ça intéressant, tu avais associé une espèce de force puis de solidité au fait de ne pas avoir besoin des autres.
Oui, mais c'était inconscient en fait. C'était dans mon personnage. Puis, tu sais, quand je dis que j'étais étiquetée là, indépendante, tu sais, je me suis fait dire, par exemple, que je suis sortie de la vente de mon mère, en parlant de la fête des mères, je suis sortie du ventre de ma mère indépendante. Fait que c'est quelque chose que je l'avais vraiment étiqueté sur le front. Fait que pour moi, puis il y avait quelque chose qui me plaisait là-dedans, là. Tu sais, j'avais une responsabilité dans cette indépendance-là. Oui.
Ça me parle.
Oui.
Ça me
Puis,
parle beaucoup.
En fait, c'est quelque chose que j'entends beaucoup, la peur de demander de l'aide aussi. Tu demandes de l'aide, c'est comme si tu es redevable ou tu peux vivre une certaine culpabilité. Et tu sais, quand tu donnes, tu sais, le désir d'aider, les thérapeutes, c'est très fort, ça, ce désir-là d'aider. Tu sais, mes étudiants, ils ont tout ça étampé sur le cœur, là, quelque part, là, puis ça va te parler, Marie-Lou, là.
Oui.
Le métier de thérapeute, c'est parce que tu veux aider.
Oui.
Puis pourtant, moi, recevoir de l'aide, c'était difficile. Mais qu'est-ce qui fait qu'on aime aider? C'est parce que ça nous fait vivre quelque chose d'agréable. C'est quand le bénévolat, ça l'amène un bien-être interne de contribuer à l'autre ou de faire quelque chose pour l'autre. Donc, quand que tu refuses l'aide, quand tu ne demandes pas l'aide à quelqu'un que tu apprécies, que tu aimes, qui est dans ta vie, mais c'est que tu lui prives de vivre quelque chose d'agréable.
C'est vrai ça. C'est très, c'est parlant parce que nous, on veut le faire pour les autres, mais on pense qu'on va être un peu un poids ou un boulet, qu'on ne veut pas déranger, qu'on reste dans notre coin. Mais il y en a d'autres personnes comme nous là, qui aiment ça aider. Ça me parle, je te rejoins là-dessus parce que le fait que je sois partie jeune de la maison, tu sais, je suis adulte autonome depuis que j'ai 16 ans. Ça m'a amené ça comme toi, Sarah, cette étiquette-là de femme forte, de femme capable. J'ai appris à me débrouiller, à survivre. Je me suis comme un peu éduquée comme adulte, toute seule. Puis demander de l'aide, c'est vraiment pas la chose la plus facile. C'est avec l'école que j'ai appris. Merci au CFPRH. Ça m'a, tu sais, je me suis inscrite pour aider les gens, les accompagner. Puis quand je me suis inscrite, j'ai vu que, bon, la première personne qu'il fallait que j'accompagne, puis que j'aide, c'était moi. Puis il y avait toute une job à faire là-dessus. Puis c'est venu un peu briser ça, je suis capable toute seule, j'ai pas besoin de personne, mais je me suis rendu compte que non, j'avais besoin des autres. Puis on dirait que c'est mal vu aussi, je trouve. Tu sais, il y a nous qui s'impose ça, mais je pense que dans la société aussi, là, on devient de plus en plus individualiste. Je veux pas généraliser, là, mais c'est comme ça. Puis de demander, tu sais, non, je m'arrange toute seule. Puis c'est beaucoup associé à la dépendance d'avoir besoin. Ah, oh, mais moi, je suis pas dépendant, moi, je m'arrange toute seule. Mais
Effectivement, c'est quelque chose qu'on entend, comme moi, j'ai pas besoin de personne, je veux pas être dépendante. Mais l'interdépendance, c'est pas être dépendant, c'est de juste assumer ou réaliser ou prendre conscience qu'on a besoin des autres c'est un besoin fondamental, les relations, tu sais, le sentiment d'appartenance, d'avoir ce lien-là avec l'autre, de se sentir aimé, d'aimer l'autre, de répondre aux besoins de l'autre, tu sais, dans les relations interpersonnelles. On a tous des besoins individuels, mais on a des besoins qui se répondent en relation. Donc,
c'est ça. Puis ça, je le réapprends avec toi aussi, tu sais, depuis qu'on a repris contact. C'est, tu sais, des fois, je te le dis, je te le nomme, mais tu sais, j'ai peur de te déranger ou, tu sais, je veux pas, tu sais, la peur d'être trop, de. Puis tu es tout le temps là en train de m'accueillir, de. Mais non, puis tu sais, on est ensemble, puis on s'aide pour ça, puis toi, tu m'aides pour ça, je t'aide pour ça. Puis là, tu sais, je le vois avec le podcast le podcast qu'on. Voyons, je vais y arriver. Le podcast que l'on monte, je le vois que, ben, on a chacune des forces. Chacune des choses que c'est plus difficile, puis on se balance tellement bien, là. C'est fou, là, tu sais. Il y a des choses qui sont naturelles, simples pour moi. Il y en a d'autres que moi, je comprends même pas que tu sois capable de faire. Puis toi, c'est super facile, là. Fait que c'est ça qui est beau dans l'interdépendance, je trouve.
Exactement, c'est que tu peux prendre les forces d'une personne, les forces de l'autre, puis il n'y a pas de tu te sens pas moins parce que l'autre a une force que tu portes pas, parce que tu as accès, si on veut, ou l'autre est disponible pour te procurer quelque chose que tu n'as pas nécessairement comme force. Fait que t'es plus fort, en fait, au travers de l'interdépendance, en te laissant cet espace-là de te faire des demandes et de recevoir.
Mais moi, ça, je t'amènerais au deuxième pilier, justement. Je trouve que ça demande de l'humilité pour être en interdépendance avec quelqu'un, parce que tu sois capable de mettre un peu ce qui est souvent vu comme positif, tu sais, cette fierté-là, mais qui, dans le fond, est un peu mal placée, tu sais, de « je suis capable de tout faire tout seul ». Ça demande de l'humilité, d'accepter que, ben cette partie-là, je ne peux pas la faire. Ça va être toi qui vas la faire. Toi, pour toi, c'est quoi l'humilité? Ça se passe comment dans ta vie? Tu vois ça comment?
Bien, en fait, pour moi, l'humilité, Marie-Lou, c'est quelque chose qui est important dans ma vie. Puis, tu sais, quand j'aborde l'humilité, parce que c'est pas quelque chose que c'est quelque chose que j'ai travaillé beaucoup dans ma vie, l'humilité. Pendant longtemps, j'étais dans l'ego. J'ai fait un gros travail là, quand j'ai rentré justement à l'école là, pour devenir thérapeute en relation d'aide au niveau de ma personne. Et j'avais beaucoup d'ego. J'étais très dans mon personnage, là, l'ego. Et c'est au travers de mon ego que je construisais mon estime de moi. De venir créer une vraie estime de soi, c'est de sortir de l'ego, puis dans l'humilité, de s'accueillir, de se voir réellement dans qui nous sommes, dans qui j'étais. En fait, tu sais, je parle pour moi, là, parce que tu m'as posé la question par rapport à moi. Fait que, tu sais, l'humilité, c'est de faire face, en fait, à ma personne, puis de me voir dans ma réalité et d'accepter, d'accueillir mes défauts et de voir mes qualités. Puis des fois, tu sais, quand tu as la pensée, là, ben, si je peux pas reconnaître ma qualité, c'est comme je me vante. L'humilité, c'est pas de se vanter, c'est de se reconnaître à sa juste valeur. Ça fait partie de l'humilité aussi. Et fait que c'est, pour moi, l'humilité, ça a été vraiment d'être dans mon vrai moi et de sortir de ce personnage-là qui venait, en fait, me carburer, en fait, mes besoins, mais mes besoins n'étaient jamais satisfaits parce que c'était au travers mon personnage, puis j'étais dans l'ego, là. Donc, et quand je reconnais la qualité d'humilité chez une personne, pour moi, je trouve ça tellement riche et rassurant aussi, sécurisant. Puis c'est quelque chose que j'aspire à développer de plus en plus, là, une humilité dans ma vie.
Je trouve ça intéressant, qu'est-ce que tu dis. C'est vrai que c'est vu souvent comme de la prétention, hein, quand on est capable de reconnaître, OK, le check là, elle est prétentieuse, mais c'est pas. Tu sais, se vanter, c'est vraiment comme tu dis, c'est dans l'ego. Tu sais, moi, je suis donc bon, je suis donc bonne, je suis forte, moi, je fais ça, regardez, je fais ça. Tu sais, il y a un peu essayer de se convaincre là-dedans. C'est pas juste de reconnaître. Tu sais, l'humilité, c'est de reconnaître, ben non, mais c'est vrai que je suis drôle. Je suis drôle, je me trouve drôle moi-même, mes collègues me trouvent drôle, c'est correct, j'ai le droit, là, c'est pas... c'est vrai que c'est vu comme ça, ouais.
Oui.
Pour moi, l'humilité...
Ouais.
Oui! Ben, pour moi, l'humilité... Hey, je vais mettre ma veste, j'ai un petit peu froid. Pour moi, l'humilité, c'est d'accepter que on est toujours en apprentissage. C'est d'accepter que je peux m'améliorer comme personne, que je peux faire des erreurs aussi, que je peux blesser. Ça, moi, c'est ça, l'humilité aussi, de reconnaître que je peux blesser quelqu'un. C'est correct, là, c'est pas... Quand je blesse quelqu'un, je l'ai pas blessé intentionnellement. J'ai déclenché quelque chose chez quelqu'un. Si la personne, elle me l'adresse d'une façon saine, « Hey, ça, j'ai pas aimé ça, tu sais, ça m'a heurté. » Bien, d'avoir l'humilité de reconnaître ça, de demander pardon, de m'excuser d'avoir causé quelque chose dans la vie de l'autre. Ça, pour moi, c'est vraiment une qualité importante, autant chez moi que chez les autres. Parce que, comme tu dis, ça m'amène à me sentir en sécurité. Je sais que si je te nomme quelque chose, tu ne vas pas tomber en mode protection, défensif. Tu vas être capable de m'accueillir dans ce que je vis. C'est important pour moi, l'humilité.
À l'abri de ça, là, causer quelque chose dans le monde de l'autre, là, de dire quelque chose des fois qu'on n'a pas dit de la meilleure façon possible, puis de pouvoir le reconnaître, là, puis de reconnaître ce que l'autre vit. Sans en prendre la responsabilité, mais de voir ce qu'on peut causer. Effectivement, ça fait une composante là, de l'humilité. Là.
Oui, c'est humain. Hein? C'est humain, on blesse, on est blessé, ça va des deux côtés.
Oui, mais tu sais, je vois vraiment l'humilité de se voir dans la réalité, dans qui on est, d'être capable de ne pas se voir plus haut, plus bas de ce qui est, de ce qu'on est, se donner le droit à l'erreur. Ça m'a parlé quand tu as dit ça. Elle s'est donné le droit à l'erreur, d'être assez humble pour dire ben non, je ne suis pas parfaite, puis je vais faire des erreurs. Et c'est correct.
Oui, puis il y a une capacité aussi d'introspection là-dedans, tu sais, quand quelqu'un me dérange avant le CFPRH, c'était tout le temps le problème, c'était l'autre, là. C'est pas moi, c'est lui qui mérite. Mais si chaque fois que quelqu'un me tapait sur les nerfs, c'était la faute de l'autre, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est d'avoir la capacité de se regarder puis de dire. Ben, qu'est-ce qui me dérange chez cette personne-là, plutôt que d'essayer de se faire porter le poids de comment je me sens? C'est ça aussi l'humilité.
Oui, c'est intéressant parce que la définition de l'estime de soi, c'est la capacité de s'aimer dans ses forces et dans ses faiblesses. Et quand tu acceptes tes faiblesses, quand tu les aimes, c'est là où que tu peux, tu n'es pas dans l'ego, tu es dans l'estime de soi, tu es dans reconnaître ta personne. Et il peut y avoir du beau. J'aime beaucoup la phrase, il y a du beau dans du malheur, il y a du beau dans quelque chose, dans l'imperfection. C'est de l'accueillir, de l'accepter. Puis quand tu acceptes quelque chose, tu as du pouvoir dessus. Quand tu n'acceptes pas
Oui,
quelque chose, c'est comme tu ne veux pas le voir, puis tu le résistes, puis tu.
puis quand quelqu'un te le montre, je me rappelle avant de travailler sur moi, avant de faire mon cheminement, quand quelqu'un me nommait une des choses que j'acceptais pas de moi, là, oh! Hey, là, j'étais susceptible. Aujourd'hui, j'en ris. On s'en crée des personnages, là, moi et mes collègues, de nos travers. Là, on amplifie ça, on l'exagère, puis on rit, on trouve ça drôle parce que. Oui, c'est un trait de nous, puis on le met sous la loupe, puis là, on en fait une petite scène de théâtre, puis c'est très, très drôle, là. T'es capable de rire de toi quand tu t'acceptes ces points-là.
Oui, puis tu sais, c'est pas de rire de soi dans se diminuer,
Non, non, non.
c'est d'en dédramatiser. Puis c'est une phrase là, que vous allez entendre au travers le podcast. Dédramatiser sans banaliser. Fait que c'est pas de banaliser quelque chose, c'est de donner l'importance qui est nécessaire à y donner, mais sans dramatiser. Puis souvent, on peut dramatiser les situations dans notre discours interne, là. On peut, tu sais, l'étiquette, le drama queen, là. Et, ouais, on
Vraiment.
commence à dramatiser.
Ouais, il faut apprendre à en rire, ça fait du bien.
Oui.
Ça l'amène de la légèreté.
Oui. Et l'humilité amène ça, en quelque sorte, cette capacité-là de rire de soi puis sans se prendre trop au sérieux. C'est quelque chose qu'au travers de nos discussions, là, qu'on est capable de ne pas se prendre trop au sérieux, là.
À fait. Ça m'amène au troisième pilier, Sarah, l'authenticité.
L'authenticité.
Oui,
Oui.
l'authenticité. Quand tu as de l'humilité, on dirait que ça. Je trouve que ça va de soi. Pour moi, c'est difficile de définir l'authenticité parce que je sais que je l'incarne. C'est ce qu'on dit de moi, que les gens m'aiment ou m'aiment pas, ils vont tous dire, en tout cas, Marie-Lou, elle est authentique. C'est comme si je me donnais un droit d'être moi-même, que je ne cachais pas des aspects de ma personne, que je ne cachais pas qu'est-ce que je pense, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je vis, qu'est-ce que je veux. Il y a une espèce de. Côté sans filtre, me voici à l'état brut. Ouais. Toi, c'est comment tu vois ça, l'authenticité?
Hey. Moi, je trouve ça tellement beau, Marie-Lou, parce que je trouve ça riche, pas des personnes comme toi, tu sais, que tu dis qu'on t'a souvent dit que tu étais une personne authentique, tu sais, t'as cette étiquette-là que tu portes, un peu comme moi avec mon indépendance. Moi, j'avais cette étiquette-là. Toi, c'est authentique. Comme Marie-Lou, elle va le dire. Elle va le dire ce qui est. Puis je trouve ça tellement beau. Puis moi, ça a été quelque chose, l'authenticité, que je pouvais donner aussi cette impression-là, peut-être par mon personnage, que j'étais authentique, mais il y avait beaucoup. De ce que je pouvais vivre, ou l'authenticité pour moi, ça a été quand même quelque chose que j'ai travaillé. C'est quoi que je veux? Qu'est-ce qui est vraiment présent et puis qui n'est pas ce qu'on pouvait m'avoir déposé dans mon monde? C'était quoi mon identité? Et l'authenticité pour moi, c'est d'être aligné avec ton identité, avec qui tu es, avec tes valeurs, et quand il y a quelque chose qui ne te plaît pas, que tu sois capable de le dire et de t'affirmer, de le dire de façon relationnelle. Ça va être un mot-clé aussi, quand tu le dis de façon relationnelle. Et c'est pas parce que tu dis quelque chose de façon relationnelle que ça va être nécessairement bien reçu dans le monde de l'autre. Parce
Oui.
que tu peux créer quelque chose, là, tu déposes quelque chose, là, en quelque sorte. Pas tout le temps, mais ça peut. Fait que l'authenticité. Ben, en fait, Marie-Lou, pour moi, l'authenticité, j'ai débuté mon année 2026 avec. C'était mon mot. Je disais, tout ce que je fais en 2026, le centre, là, je vais être dans l'authenticité. C'était mon repère. Tous les projets, tous les discussions, mes amitiés, tout, c'est est-ce que je suis dans l'authenticité? Est-ce que c'est authentique ce que je fais maintenant? Est-ce que c'est aligné avec ce que je veux, avec ce qui me fait vibrer? Est-ce que je suis dans la joie quand je fais ça? Est-ce que ça me procure quelque chose de positif? Est-ce que c'est ça que je veux? Fait que tout ce que je pouvais entreprendre, c'était filtré par l'authenticité.
C'est beau, qu'est-ce que tu dis? Puis, je trouve que ta définition d'authenticité, ça me ramène un peu à ma définition de l'intégrité. C'est drôle, hein, parce que pour toi, c'est ça l'authenticité. Moi, ça me fait penser à l'intégrité. L'intégrité, c'est de toujours se réaligner vers soi. Est-ce que je suis en accord avec qui je suis, avec ce que je pense, ce que je fais, ce que je dis? Pour moi, c'est vraiment ça, l'intégrité de. J'ai souvent dit, ben moi, peu importe ce que les autres en pensent, je veux pouvoir me regarder dans les yeux le soir dans le miroir, puis être en paix avec moi-même, de me dire que j'ai été la personne que je suis dans mes valeurs, dans ce que je me suis. C'est une forme de fidélité à soi, de respect de soi et d'honnêteté.
Oui.
Toi, tu le vis comment, l'intégrité?
Ben, l'intégrité, c'est quelque chose que je me suis fait dire souvent dans ma vie, que j'étais une personne intègre. Et j'ai grandi là, avec un modèle, un père qui avait une intégrité incroyable, là, ce qui était dans toutes les facettes, là, très intègre. Fait que pour moi, j'ai eu un bon modèle d'intégrité. Et c'est quelque chose qui est très fort pour moi. Si je crois quelque chose, si j'ai quelque chose, une valeur importante pour moi, bien, je ne dérogerai pas de cette valeur-là. C'est très ancré chez moi. Et lorsque je vais à l'encontre d'une valeur, ça va me rester des années, là, puis ça va me revenir. C'est comme ce moment-là, je n'étais pas intègre, puis ça me reste. Fait que pour moi, c'est profond dans l'intégrité. Elle m'amène un bien-être, m'amène une paix d'esprit. Fait que je resterai d'être collée à mes valeurs, ce que je crois et ce que je fais est en lignée. Et quand je reconnais... Oui, vas-y.
Les propos que tu as utilisés me font penser à... Corrige-moi si je me trompe, mais tu y repenses encore après. Est-ce que tu as l'impression de te trahir quand tu n'es pas intègre?
Ah, définitivement. Définitivement. Quand il y a une... Quand tu, ben, en fait, c'est ça. En fait, l'être humain, quand on a des valeurs, les valeurs sont fondamentales. Puis souvent, les valeurs... c'est comme, par exemple, je vais donner l'exemple classique. T'sais, dans un couple, tu as la valeur de la fidélité. Ben, l'infidélité, quand un couple a cette valeur-là, ben, ça crée quelque chose chez la personne qui a commis cette infidélité-là. Il y a toute une honte, culpabilité qui peut être réveillée par rapport au fait d'aller en l'encontre. C'est quasiment plus souffrant pour la personne qui commet l'infidélité, par exemple, que la personne qui vit l'infidélité de son conjoint. Parce que la personne a trahi quelque chose à l'interne, là, face à une valeur.
Ben oui, on va souvent dire qu'elle a trahi l'autre, mais on oublie la partie où la personne s'est trahie elle-même.
Oui, c'est souvent plus souffrant pour la personne qui se trahit elle-même dans sa valeur qu'elle porte. Ouais, fait que ça, c'est un exemple classique que je pense que tout le monde peut comprendre. Mais là, on a parlé de la valeur de fidélité, mais t'as plein d'autres valeurs là, qu'une personne peut porter. Puis les valeurs sont souvent fondamentales. Fait que quand tu vas à l'encontre d'une valeur, c'est comme tu te brimes toi-même. Puis c'est parfois aussi, c'est de faire un ménage de ces valeurs, parce que des fois, tu as des valeurs que tu as achetées, qui t'ont été transmises de ton milieu familial. Et acheter ces valeurs-là, est-ce que c'est quelque chose qui me colle encore aujourd'hui?
Ouais,
mais souvent, quand on a des valeurs importantes pour soi, c'est l'intégrité, en fait, c'est de rester collé avec ce qui est important pour soi, ses valeurs.
On a parlé de l'intégrité, l'authenticité, l'humilité, l'interdépendance. Et nous, hey, on a la dernière, et non pas la moindre, l'amour! L'amour, on dirait que c'est associé à la relation amoureuse, hein? Puis pourtant, moi, je dans les dernières années, j'ai tellement découvert une autre forme d'amour, l'amour de soi, mais l'amour de mes amis, de mes collègues, l'amour de tellement de personnes. Tu sais, l'amour, dans le fond, c'est quand tu as un beau lien avec quelqu'un, quand tu as une connexion, hein? Puis moi, l'amour, Sarah, comme pilier, là, j'aurais pas pensé dire ça un jour. J'aurais jamais. Moi, je me suis inscrite au CFPRH, puis ma première question, ça a été, ça se peut-tu du monde trop brisé pour se réparer? Parce que je considérais que j'étais comme ça. Puis après beaucoup, beaucoup, beaucoup de thérapie et d'interdépendance et de liens, mais pour moi, l'amour, ça répare. C'est toutes les fissures qui étaient là à l'intérieur de moi, puis il y en a encore. Ben, à chaque fois, je me sens aimée par quelqu'un. Ça vient comme colmater toutes ces petites fissures-là. Ça a un pouvoir de guérison tellement fort, l'amour dans les relations. Toi, tu le vis comment?
Ben, ça me parle beaucoup, ce que tu partages, Marie-Lou, puis ça me touche, en fait, de voir, quand tu as dit « est-ce que je suis trop brisée pour être... pour me réparer. » L'amour, tu sais, c'est très subjectif, dans le sens que tu pourrais demander à 20 personnes c'est quoi la définition de l'amour, puis tu vas avoir 20 définitions différentes. Et l'amour, c'est tellement riche et c'est tellement puissant. Quand tu es vraiment dans cet accueil inconditionnel d'une personne, de permettre à l'autre, en fait, que dans la relation que tu entretiens avec l'autre, ce que l'autre entend, c'est que je suis correct tel que je suis. Et la personne peut ressentir cet amour-là, que je suis aimée, je suis la personne à même telle que je suis. Et c'est tellement puissant, ça permet justement à une personne de pouvoir exister dans qui elle est, sans être dans un personnage, sans vouloir impressionner ou plaire. Et c'est pour moi, c'est ça l'amour. Puis c'est pas isolé justement les relations amoureuses. On peut, on peut, c'est un classique, là, comme l'amour, ben, c'est en couple que tu vis, mais tu peux le vivre tellement dans différentes relations et c'est tellement réparateur. Quand tu peux, c'est moi une de mes relations qui m'a permis d'évoluer, là, fois mille, c'est la relation avec ma meilleure amie, Sandra, parce que j'ai un accueil inconditionnel d'elle, je ressens cet amour-là venant d'elle, puis ça a été un pilier dans ma vie qui m'a permis de pouvoir aller explorer différentes facettes de ma personne, puis ce lien-là, pour moi, était tellement sécurisant et je me sentais correcte telle que j'étais. Puis ça, c'est un tremplin pour moi de pouvoir cheminer, faire un développement personnel. Puis j'ai eu d'autres amies précieuses qui m'ont permis d'établir des liens justement sécurisants où ce que je me sentais aimée et que j'ai pu évoluer. Fait
C'est
que c'est pour moi,
libérateur.
ah, c'est tellement libérateur. Mais
Ouais.
pour moi, l'amour, c'est comme c'est sûr, ça devait faire partie de nos piliers, c'est
Oui.
central et tellement réparateur quand que tu peux avoir cette relation-là qui te permet de te sentir aimée. Et
Vraiment.
d'être capable de recevoir, oui, l'amour.
Ouais. Oui, c'est oui, il faut que tu sois capable de le recevoir. Moi, suite à la séparation avec le père de mes enfants il y a 7-8 ans, je me suis isolée, là. J'avais. Ah! J'en voulais plus de relations. T'sais, déjà, les relations sociales sont difficiles pour une personne autiste. Déjà, à la base, rajoute tes traumas, tes souffrances. J'avais plus de lien. J'ai commencé à me réparer à travers l'école, à travers mon travail, parce qu'avant, je n'avais pas un poste fixe. Je me promenais dans trois centres de jour. J'étais tout le temps en train de me fuir ou de fuir les conflits, les problèmes d'équipe. Là, j'ai été fixe, puis je me suis mis à développer des beaux liens avec mes collègues que j'adore, qui vont m'écouter. Puis ça a été tellement, tellement guérissant là, de pouvoir, tu sais, aussi, on a une espèce d'image où il n'y a pas de conflit là, dans l'amour, là. Mais ces personnes-là, mes collègues, là, tu sais, des conflits où ils ne sont pas partis. Je me suis nommée, j'ai vécu de la colère, j'ai le droit de parler, j'ai le droit d'être entendue. On a réparé ce petit bout-là où c'était plus difficile, puis on dirait qu'on s'aime encore plus fort après.
Oui, c'est une pensée qui peut être présente par rapport à quand tu aimes quelqu'un, tu peux pas avoir de conflit. S'il y a un conflit, c'est parce qu'il y a pas assez d'amour. Et ce n'est pas le cas. Les conflits, c'est naturel, c'est normal. C'est même, tu peux tellement grandir au travers d'un conflit et c'est d'être capable de résoudre un conflit. Et là, la relation est encore plus forte suite au conflit. Puis un des ingrédients qui te permet justement de pouvoir transcender, si on veut un conflit, ben c'est l'amour. Hein? Ouais. D'être ouvert à aimer et de recevoir. Fait que l'amour, c'est dans les deux sens. Tu aimes et tu reçois aussi l'amour de l'autre.
Ben, nos piliers sont tellement incroyables. On en parle. J'aurais pas pu, il n'y en a pas un qui n'aurait pas pu être là. Puis
Ouais.
je trouve que nos saveurs, c'est nous, hein, c'est nos couleurs.
Ouais, effectivement. Effectivement.
Oh, je suis tellement contente. Je pense que ce qui nous reste à aborder, Sarah, c'est la structure des podcasts. À quoi ça va ressembler de fois en fois, alors dehors de cette fois-ci, ça va être quoi notre structure?
Ben, en fait, la structure, là, pour aller rapidement, l'objectif de discuter, ça le dit dans le titre, c'est de discuter de différents sujets. Puis on est deux thérapeutes en relation d'aide, donc on va aborder des sujets qui sont pertinents, qui sont importants à l'être humain. Et tu sais, j'ai entendu cette phrase-là tellement souvent là, au travers de mes enseignements, mes étudiants qui me disaient « Pourquoi qu'on n'apprend pas ça à l'école? C'est tellement important, ça devrait être enseigné, tu sais, l'intelligence émotionnelle. » Donc l'objectif de discuter, c'est d'aborder des sujets pertinents et d'aborder l'angle du développement personnel, comment transcender, t'sais, par exemple, les conflits, ben, comment régler les conflits, t'as peur de déplaire, comment, c'est quoi la peur de déplaire, qu'est-ce qui est tout en dessous, et t'sais, on faisait juste parler des conflits, Marie-Lou, t'sais, tu peux avoir différents niveaux de conflits, t'sais, un conflit qui est un conflit simple, qui se résorbe simplement, puis tu peux avoir des conflits où est-ce que tu as une charge émotive démesurée par rapport à une situation qui peut sembler tellement anodin, mais c'est parce que ça parle de quelque chose d'autre, c'est comme tu, il y a quelque chose que ça vient réveiller d'une blessure peut-être qu'une personne porte. Donc, ça, c'est un exemple. Fait qu'on va aborder différents sujets, différents enjeux. J'en ai nommé quelques-uns, de l'estime de soi. Et entre autres, un des premiers sujets, ben, le premier sujet qu'on va aborder, ça, c'est la base. Tu sais, l'être humain, on est des êtres humains émotifs. Donc, les émotions, il peut y avoir tellement une histoire qu'on peut se raconter face aux émotions que c'est, de un, c'est inconfortable, désagréable, parfois même pour certaines personnes inconnues. Les émotions n'étaient pas permises, n'étaient pas jugées comme étant adéquates. Donc, une personne s'est coupée complètement de son monde émotif pour pouvoir survivre dans son environnement. Donc, les émotions, ça va être le premier sujet qu'on va aborder et on va voir, tu sais, de quelle façon tu prends soin de ton monde émotif, c'est quoi les émotions, qu'est-ce qu'ils viennent faire, qu'ils sont là pourquoi. Donc, donc, les sujets qu'on va aborder, on va y aller en profondeur.
C'est la base, hein? Tu sais, on entend, je le vois souvent autour de moi, des gens qui ne veulent pas. Moi, je suis à l'aise de le dire, je l'assume. Je les vis, mes émotions, puis je les nomme. Puis pour des gens qui ne sont pas à l'aise avec ça, ben, je suis une personne lourde. Parce que pour beaucoup de gens, les émotions, c'est négatif.
Oui,
C'est
ça peut
comme,
être
voyons,
lourd.
on vit tout le temps des émotions, c'est lourd. Tu sais, les gens vont vouloir éviter, vont vouloir fuir, mais c'est pas lourd de vivre des émotions. C'est humain, puis combien d'émotions tu peux passer dans une journée? Moi, je peux en vivre 7-8 faciles, là.
Oui. Puis en fait, tu sais, quand une personne est plus émotive et qu'elle n'est pas responsable face à ses émotions, qu'elle va mettre la cause de son émotion chez l'autre, ça peut être lourd, effectivement. Fait que c'est. Il y a plusieurs nuances qu'on va amener. Oui. Donc,
C'est de
parce que il y
choisir
a.
aussi à qui on se confie.
Oui. Et il y a d'autres personnes qui peuvent avoir tellement peur de l'émotion que s'ils font quelque chose, puis ça va nous parler à nous parce on le fait tous à un certain degré ou on l'a déjà fait. Mais tu sais, tu n'oses pas dire quelque chose parce que tu vas peut-être causer une émotion dans le monde de l'autre puis tu ne veux pas avoir à le gérer. Fait que tu vas t'empêcher de t'exprimer ou de nommer quelque chose ou de même faire une demande. Fait que, tu sais, donc, on va tout décortiquer, en fait, les dynamiques relationnelles, qu'est-ce qui se passe en relation, tu sais, la peur du jugement, c'est un autre gros qui peut être présent, la confiance en soi. Tu sais, partager, c'est quoi une réelle confiance en soi? Parce que tu peux avoir une personne qui peut avoir une apparence de confiance en soi, mais à l'intérieur, il y a toute autre chose qui se passe. Donc, c'est tous des sujets qu'on va aborder. Puis aussi, on va être à l'écoute de notre public. Donc, vous qui nous écoutez, si vous avez des sujets que vous voulez adresser, bien, vous allez pouvoir nous les partager, puis on va pouvoir les aborder. Fait que l'idée de discuter, c'est de discuter de différents sujets et des sujets, des fois, qui peuvent avoir des polarités quand même extrêmes et de venir ramener un équilibre dans différents sujets.
Puis qu'est-ce qu'on va faire après en avoir discuté?
Bonne question, ça, Marie-Lou. Qu'est-ce qu'on va faire avec les sujets qu'on va aborder? Parce que juste de simplement aborder un sujet, ça peut, oui, faire prendre compte des ça peut. On peut prendre des prises de conscience, mais ce qui vient amener un changement dans la vie d'une personne, c'est l'action. Fait que l'action amène le changement. Donc, à chaque épisode, il va y avoir un volet de quelle action poser par rapport au sujet qu'on a discuté. On va avoir aussi des formations qu'on va monter éventuellement pour faire des processus thérapeutiques soi-même. Fait que là-dedans, il va y avoir encore plus d'outils. Mais dans tous nos podcasts qu'on va avoir dans nos épisodes, il va y avoir un volet. Donc, qu'est-ce qu'on met en place au travers de ce podcast-là, au travers le sujet qu'on a abordé? Pour venir amener un changement chez soi.
Ah, ça va être super intéressant. Moi, j'aimerais ça parler d'un petit truc qu'on va ajouter aussi dans notre structure, ce qu'on appelle, c'est la minute d'humanité, le moment d'humanité
Oui.
où, ben, moi puis Sarah, on aime beaucoup l'art, on aime créer. Sarah, elle adore le portrait, elle en fait au dessin, tout ça. Moi, j'adore aussi la photographie. Donc, on veut se promener, photographier des gens, leur demander qu'est-ce qui les rend heureux dans leur vie, puis de donner de la place à l'être humain. Sarah et moi, on aime aussi beaucoup les extrêmes, la jeunesse à qui on laisse pas beaucoup de place, les personnes âgées qui sont souvent pas exposées, qui ont beaucoup de sagesse, et qu'on va amener de l'humanité dans le podcast.
Oui, exactement. Notre moment d'humanité. Oui. Puis ça, je trouve que c'est tellement le fun, tu sais, quand tu m'as parlé de la photographie que tu. Puisqu'on se redécouvre, en quelque sorte, Marie-Lou, après ces 27 ans-là. Et toi, tu aimes beaucoup faire la photographie, puis tu avais fait une exposition là, de portraits. Puis moi, les portraits, là, j'ai. Ça a été plus mon jeune adulte, le 16. Parce que moi aussi, je suis partie très tôt là, de la maison, comme toi. Puis j'avais mon calepin, puis partout où j'allais, là, je faisais le portrait des personnes que je rencontrais. Et ça, je l'ai encore, là, ce calepin-là, puis j'en fais encore de temps en temps. Mais c'est pour moi, le visage de l'être humain parle tellement. Tu peux tellement voir au travers d'un visage, au travers des yeux, au travers le regard. Donc, d'avoir des portraits de personnes qu'on rencontre. Des personnes aussi qui nous ont été marquantes dans nos vies, avec des amis, des personnes proches, puis on veut aller rencontrer les personnes dans la rue, puis poser cette question-là. C'est quoi qui te rend heureux? Et c'est encore une question qui peut être très subjective, parce que ça peut être différent pour chaque. Fait que d'avoir cet angle-là de chaque personne qu'on va poser cette question-là.
Ah, j'ai hâte de voir, j'ai hâte de
Ouais,
voir.
ça va être très intéressant.
Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre dans notre structure qu'on n'a pas nommé, Sarah?
Ben, en fait, dans notre structure, parce que, tu sais, Puis là, on va parler du stéréotype. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on le dit, Marie-Lou, tu vas pouvoir me corriger. Le stéréotype du thérapeute en relation d'aide.
Oh.
C'est qu'on est parfait, qu'on a tout réglé, qu'on est un. Fait que ça, c'est très. Ça peut être l'image qu'on peut représenter. Puis la réalité, c'est qu'on est humaine comme tous, puis on a nos enjeux, puis on a notre vécu. Fait qu'au travers le podcast, on va amener notre vécu en lien avec le sujet. Fait que, et souvent, moi, je l'observe là, dans ma vie. Si j'aborde, tu sais, je vais faire une formation sur un sujet, ben, je vais vivre des expériences dans ma semaine qui vont m'amener, qui vont être en lien avec le sujet que je suis en train d'enseigner. Fait qu'on va amener de nos vécus. Puis ça peut être du vécu dans notre passé, ça peut être du vécu qu'on est en train de vivre dans le présent. Fait qu'on va amener ce volet-là.
Ça va être intéressant. La différence. Mais c'est pas une différence, en fait, c'est que les thérapeutes, c'est qu'on marche le chemin. On y va en thérapie, on a des connaissances, mais ce qu'on fait, c'est qu'on fait le chemin, puis on a peut-être plus la conscience de nos dynamiques, on va faire peut-être plus d'introspection, mais mis à part ça, il y a une espèce d'idéalisation là, des thérapeutes. Mais on est fait de la même chose que tout le monde, on n'est pas au-dessus de personne, on est égal.
Amen. Oui, on est égal, exactement. Puis, tu sais, je trouve ça très beau ce que tu dis, Marie-Lou, parce qu'il y a une distinction, c'est qu'un bon thérapeute va être dans sa responsabilité. Donc, on va vivre nos choses, mais c'est peut-être le chemin pour revenir à soi ou pour comprendre, ou on va être plus dans notre responsabilité face à quelque chose qu'on peut vivre. Fait, je pense que nos exemples dans nos vies personnelles vont être très contribuants là, pour tous qui nous écoutent à la maison.
Oh, je trouve tellement que notre projet... Il est beau. Puis moi, je suis vraiment contente parce que j'aurais aimé ça, moi, pouvoir écouter des thérapeutes. J'en ai suivi une qui avait un petit podcast, mais tu sais, des longs échanges, des sujets, des outils. Pour moi, ça va amener probablement plus de personnes à être conscientes de ce qu'ils vivent. Puis ils vont sentir probablement le sentiment des fois qu'on a de ne pas être normal ou parce que les gens, on ne parle pas tous de notre monde émotionnel, hein, c'est pas tangible, c'est ça le mot l'autre jour qu'on cherchait. C'est pas quelque chose qui est tangible, c'est tout à l'intérieur, ça se voit pas, c'est pas toujours exposé. Fait que d'entendre des personnes en parler, je pense qu'il y a beaucoup de gens là, que ça va rejoindre.
Oui, effectivement. Et puis de vulgariser des fois des sujets qui, tu sais, que quand tu lis un livre de psychologie, que ça peut être plus complexe, fait que de voir, tu sais, c'est ça un peu notre objectif aussi, c'est de venir. Mettre certaines notions disponibles au public, le vulgariser sans filtre professionnel. Ça va être un défi.
Oui, effectivement, là, pour toi qui as 11 ans de métier, ouais, oui, tout à fait. Fait qu'il va avoir un contenu qui va être gratuit, qui va être accessible, on va faire le tour de plein de sujets, puis éventuellement, ce qu'on veut, moi et Sarah, c'est de rendre accessible, parce que la thérapie coûte cher, hein, de rendre certaines dynamiques, de pouvoir aller explorer un peu plus loin, de faire un processus d'introspection, de guérison, de compréhension de soi. Là, on va vendre des petites autothérapies au fil du temps que les gens vont pouvoir acheter plutôt que d'aller là, faire une thérapie pour les gens qui n'en ont pas les moyens.
Oui. Puis, tu sais, je veux juste nuancer ton mot que tu as nommé, Marie-Lou, guérison. Puis, on l'a nommé à quelques reprises là, au travers de notre discussion. Puis, tu sais, la guérison, là, c'est un mot qui peut être subjectif, en fait. Mm-hmm. C'est pas tant la guérison que la reconstruction. De trouver mm-hmm. une façon, un retour à soi. Et, tu sais, quand on a, tu sais, dans n'importe quel contexte qu'on a vécu, en fait, une personne va venir s'adapter à son contexte pour survivre. L'être humain, on veut survivre. L'instinct de survie est tellement fort. Et il peut y avoir tout un personnage qui a été créé pour survivre. Qu'on va appeler le faux soi. T'sais, vous allez recommencer à reconnaître des termes qu'on va utiliser. Puis ça va être un qu'on va utiliser souvent. Et l'idée, c'est de revenir à soi. C'est comme si qui je suis, qu'est-ce que je veux, c'est quoi mes besoins et comment j'en prends soin, d'être responsable de sa vie. Et ça l'amène toute une autonomie personnelle. On peut dire que ça l'amène une forme de guérison. Mais c'est prendre la responsabilité de sa vie, d'être autonome, d'être conscient de soi. Tu sais, quand on est dans l'inconscience, on est souvent sur le pilote automatique. On avance, puis on ne sait pas pourquoi nécessairement. On fait des choix, puis comme ça me convient-tu? C'est-tu vraiment ça? Cette impression-là de ne pas se connaître. Fait qu'au travers de notre podcast, c'est d'amener des prises de conscience, de, comme tu l'as nommé, Marie-Lou, de se reconnaître, de voir « OK, c'est ça, je vis. Je ne suis pas un extraterrestre, là. Je ne viens pas de Mars, là. Je viens vraiment de la Terre. Je suis vraiment un humain. Puis ce que je vis, c'est normal. »
Tellement. Puis la reconstruction, ça l'amène de la paix. Il y a des choses qui vont rester cicatrisées, mais qui ne feront plus aussi mal, qui ne vont plus autant nous réactiver, nous déclencher. là, ça amène, moi, ça m'a amené une certaine paix intérieure face à des choses que j'ai vécues dans ma vie.
Effectivement, c'est un processus des fois de deuil, là, d'acceptation, en
Oui,
fait. Oui.
tout à
Et
fait.
j'aime beaucoup la phrase « Mon passé ne me définit pas ». Fait que tu peux choisir ce qui te définit. Tu peux choisir ce que tu veux alimenter dans ta vie, ce que tu veux être. T'es pas ton passé. T'es ce que tu es au présent, ce que tu décides.
Vraiment, ton passé, c'est un chapitre. Moi, je vois ça comme un chapitre, là. La vie, c'est ton livre, c'est ton histoire. Il y a un chapitre pour chaque moment que tu traverses dans ta vie.
Oui. Et puis nous autres, on a tout un chapitre ensemble, Marie-Lou.
Nous autres, on a une trilogie. Il y a
Allez,
plusieurs
puis ça
livres.
continue. C'est comme
Oui.
le tome 1, tome 2, tome 3. Mais là,
Vraiment.
on est dans tout un tome, là, toute une histoire qu'on est en train d'écrire.
Vraiment. J'ai hâte à la suite. C'est une super de belle expérience. Merci de me permettre de vivre ça avec toi, Sarah. Merci au public aussi, à tous ceux qui vont nous suivre, qui vont nous écouter, qui c'est vraiment je me sens privilégiée d'embarquer dans cette aventure-là.
Oui, effectivement, c'est un privilège. Puis j'ai hâte de voir ce que ça va mener, mais juste de pouvoir vivre cette aventure-là avec toi, Marie-Lou, c'est vraiment un plaisir. Puis c'est tellement riche. Et tu sais, mon espoir, en fait, c'est de pouvoir contribuer à plus de personnes. Puis ce que je peux voir, puis que j'expérimente, c'est quand je suis témoin d'une personne qui se donne le droit d'exister tel qu'il est, qui est dans l'accueil de sa personne. Tu sais, quand on parlait du pilier de l'amour, une personne qui s'aime, qui développe cet amour-là pour soi-même, qui se donne ce droit-là d'exister. C'est beau, c'est tellement magnifique.
Oui, vraiment.
Que
Surtout
si on
quand une
peut.
personne le fait aussi, puis t'en es témoin,
Ah, c'est
ça,
beau.
le stage, moi, ça, j'ai pas de mots. Je me sentais là, privilégié, c'est pas suffisant comme mot. Être témoin de quelqu'un qui se reconstruit, qui se donne le droit de vivre ses émotions, d'être le droit d'être dans toute son entièreté, là, c'est tellement beau. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas
Il
de
n'y a pas
mots.
de mots. Oui, c'est magnifique. Donc, si au travers le podcast, au travers de nos épisodes, notre public, puis j'ai hâte d'entendre vos partages, vos commentaires, comment vous recevez nos épisodes. Puis, tu sais, on a parlé un peu de notre, ben, un peu, on a parlé de notre structure, ça va continuer à évoluer. Ça, c'est quelque chose qu'on porte toutes les deux aussi, Marie-Lou, c'est cette ouverture-là à aller où ce que ça va évoluer. Il y
Tout
a de
à fait.
l'ouverture puis de la flexibilité. Donc, on veut être à l'écoute aussi de vous, des besoins, de ce que vous voulez entendre, s'il y a des sujets, parce qu'on, tu sais, moi, j'envoie des sujets, là, souvent, qui peuvent revenir au travers de ma clientèle. Et ça, je ne l'ai pas mentionné, Marie-Lou. Je pense que je ne l'ai pas mentionné, mais ma spécialité, c'est le lien de l'attachement.
Oui.
Pour moi, c'est quelque chose de ce que j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai fait beaucoup de lectures, c'est quelque chose qui est au centre de ma pratique. Et donc, au travers de tous les sujets, tu sais, la notion d'attachement, là, c'est la base de l'être humain. C'est comme ça qu'on fonde notre identification, notre estime de soi, l'exploration. Donc, c'est vraiment la base de l'être humain. Donc, dans tous les sujets qu'on va adresser, on va venir faire un lien avec l'attachement, avec l'estime de soi. L'attachement, l'estime de soi, c'est très, très collé aussi.
Oh, c'est tellement excitant! C'est tellement excitant! Je suis tellement contente! Mais, Sarah, à moins que tu aies d'autres choses à adresser, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui.
Et je
Oui.
pense que ça complète pour aujourd'hui. Moi, j'ai le goût de terminer, Marie-Lou, avec notre phrase. Parce que
Accompagner, c'est
accompagner,
notre
c'est
tasse
notre tasse de
d'été!
thé.
Oui!
On se voit bientôt.
À bientôt, tout le monde!
Puis encore, bonne fête des mères.
Oui!
Et Marie-Lou, bonne fête à toi. Bonne
Merci!
fête.
Merci. À bientôt tout le monde.
On the bittersweet escape. Let me stay in this state of mind. From the cradle of your arms.